Je vais essayer de présenter une réflexion sur que j'ai intitulée « Du travail des enseignants aux enseignants au travail, un métier en manque de débat avec un point d'interrogation ». Donc je vais traiter trois points essentiellement. Le premier, un bref rappel qui permettra de montrer comment on est passé d'une conception du travail perçue comme un obstacle à la conception du travail perçue comme une énigme. Le deuxième point sera plutôt du point de vue des acteurs et comment l'expérience du travail des enseignants se traduit par le sentiment d'avoir affronté une mission impossible et ce qu'on peut qualifier une expérience du mésusage, d'un mésusage, ce que j'expliquerai un peu mieux. Le troisième point sera consacré à un mouvement qu'on observe qui est, et une question qui est une question en même temps, la construction d'une normativité intermédiaire dans et par l'activité. S'agit-il d'une autre façon de résister? Et enfin, en conclusion, je poserai la question de la singularité et de l'universalité et de comment la sociologie peut s'emparer de la question du travail sans être accusée ni de psychologiser le social ni de sombrer dans un particularisme qui empêcherait toute généralisation. Donc, premier point, du travail comme obstacle, au travail comme énigme. Donc, pendant longtemps, la sociologie de l'éducation, puis les sciences de l'éducation, ont considéré le travail enseignant d'abord de façon assez lointaine. C'est peu préoccupé de sa quotidienneté, de sa complexité au jour le jour, et cet intérêt s'est manifesté beaucoup plus récemment. Donc, en effet, jusqu'aux années 80, le travail enseignant a été décrit et jugé par les chercheurs essentiellement comme inadapté. Le premier à donner l'exemple, si on peut dire, c'est Durkheim, puisque dans son texte sur l'évolution pédagogique en France, il développe cette idée de façon assez longue et il évoque notamment le misonéisme des enseignants qui est un obstacle à la réforme du système d'enseignement qu'il défend. Dans la même orientation, mais avec un argumentaire différent, a été repris plus tard par la sociologie critique, qui a identifié les enseignants et leur travail comme un obstacle, dans la mesure où plus soucieux de mettre à jour à qui profite l'éducation, les enseignants sont identifiés comme des éléments plus ou moins aveuglés d'un système qui est au service de la reproduction sociale. Dans tous les cas, le travail enseignant est donc perçu comme l'obstacle à la réelle formation de l'esprit qu'appelle Durkheim, ou comme l'obstacle à la mise en œuvre d'une réelle égalité des chances. Donc les études, dans le même temps, sur la réalité du travail enseignant sont quasiment inexistantes et l'intérêt pour ce qu'on appelle désormais les pratiques professionnelles arrive en France essentiellement dans les années 80, même dans la deuxième moitié des années 80. L'idée d'une sociologie des pratiques pédagogiques, défendue par Lise de Mailly en 1985, n'a fait que très lentement son chemin. Et la focalisation sur des pratiques contextualisées est étroitement liée au mouvement de décentralisation de l'éducation, notamment, et de mise en place des politiques compensatoires, qui ont été identifiées à la fois comme une réponse aux problèmes posés par la massification et comme le moyen d'une plus grande efficacité de l'école. Le projet de professionnalisation accompagne la diversification des tâches des enseignants. Il y a toute une littérature dans les années 80 qui défend à la fois l'idée de professionnalisation en relation avec cette diversification des tâches. Je renvoie aux travaux de Marguerite Alté, de Bourdoncle ou de Vincent Lang. Dans le même temps, dans ces années-là, il y a un constat qui est fait d'un résultat assez décevant des différentes réformes organisant la démocratisation de l'enseignement. Et ce constat est l'occasion du développement d'une rhétorique de la résistance au changement. Résistance au changement qui est celle des enseignants, qui n'appliqueraient pas ou pas correctement des réformes et des décisions rationnelles issues de politiques d'éducation. Et ce manque d'enthousiasme à l'application de ces réformes proviendrait d'un corporatisme désuet et enfermant. Le diagnostic à ce moment-là est accompagné de son remède, c'est la formation qui, espère-t-on, va permettre aux enseignants de changer leurs pratiques, du moins de les faire évoluer, et de prendre en compte, mieux que ce qu'ils ne le faisaient jusqu'à présent, un contexte en forte évolution. Donc le diagnostic est accompagné de son remède, la formation. Et dans les années 80, cela se traduit par deux décisions politiques majeures. La première, c'est la mise en place de la formation continue des enseignants. Et la deuxième, c'est la création des IUFM, les deux visant à résoudre cette difficulté. À cette occasion, la préoccupation des pratiques professionnelles vient au premier plan. Alors, dans le même temps, ou un petit peu en décalé, se sont développés des travaux ailleurs que dans le domaine de l'éducation, en sociologie du travail, des travaux d'ergonomie de langue française, de clinique de l'activité, ou ceux des sciences cognitives, qui ont permis de développer de nouvelles approches du travail, un renouvellement de ces approches qui trop longtemps ont été marquées par le soupçon, comme je l'ai dit. Au-delà des différences et des contradictions entre ces nouvelles approches, il y a quand même un point commun qui ressort, c'est qu'il s'agit désormais de comprendre le travail tel qu'il est fait, tel qu'il se fait, et plus souvent qu'avant, de se poser, de le comprendre du point de vue de ceux qui l'exercent. Au final, le travail apparaît moins comme un obstacle que comme une énigme, notamment du fait de sa part invisible et composite. Dans les années 90, on peut observer une bascule qui s'opère à propos de la conception du travail. Le centre d'intérêt devient le fait que le travail, ça marche. Et on s'interroge à savoir pourquoi et comment ça arrive à marcher malgré tout. Le deuxième point est que les routines de travail, et non plus seulement les dysfonctionnements et les innovations, sont construits en objet d'étude. Le troisième point de bascule est le fait que l'ingéniosité mise dans le travail, sans laquelle le travail ne pourrait pas se faire, permet une certaine sortie de l'ère du soupçon dont j'ai parlé auparavant. Le quatrième point est le fait que tout le monde admet que la singularité du travail ne peut se comprendre, fait qu'il ne peut se comprendre qu'en contexte. Et enfin, le dernier point sur lequel j'insisterai, c'est qu'à partir des années 90, la question de l'organisation du travail et du facteur humain, selon d'autres conceptions que les conceptions managériales habituelles, est mise au premier plan. Donc c'est désormais l'activité et pas la profession enseignante, comme la plupart des enquêtes précédentes le faisaient, c'est désormais l'activité, c'est-à-dire le réel du travail, dans son historicité, dans son contexte, dans ses dimensions individuelles et collectives, une activité reliée à des orientations politiques, autant qu'aux valeurs qui les sous-tendent, qui est l'objet d'étude. Ce qui constitue un déplacement très important. À partir de la fin des années 90, et surtout depuis le début de ce siècle, ces approches gagnent la sociologie de l'éducation et les sciences de l'éducation, au moment où, de plus, la crise économique et sociale aidant, un double constat est fait, d'une part d'une crise de l'enseignement, et d'autre part d'une modification des contours et contenus du travail enseignant, résultant d'un renouvellement des prescriptions. Renouvellement des prescriptions à un rythme soutenu, ce qu'on peut observer aussi, et qui est le signe d'une difficulté à stabiliser un accord au plan national, tant sur les contenus d'enseignement que sur les dispositifs d'enseignement. Du coup, les enseignants sont confrontés à la difficulté suivante. Comment mettre en adéquation la définition d'un métier tel qu'ils en héritent et dans lequel ils se projettent, et celui des prescriptions multiples telles qu'elles ont contribué à le redessiner. Le décalage entre l'idée d'un métier fondé sur et légitimé par une mission et la politique d'éducation tendant à en faire une prestation de service négociée se retrouve au sein même de l'activité. Cette situation provoque une tension et un double mouvement. Le premier mouvement que l'on peut observer du fait de cette tension, c'est le malaise dans le travail des enseignants, dont les manifestations sont diverses. Et l'autre mouvement, c'est un travail intense de construction, difficile, encore peu abouti, d'une nouvelle normativité, dans un contexte où l'unicité du travail a été battue en brèche. Donc je voudrais parler surtout de ce deuxième aspect. Et d'abord évoquer du côté des acteurs, donc ça sera mon deuxième point, comment est vécue la situation. Du côté des acteurs, ce qui ressort, c'est donc l'idée d'une mission impossible et l'expérience d'un mésusage. Dans la description que les enseignants font de leur travail, dans l'expérience qu'ils ont de leur travail, désormais revient un certain nombre de caractéristiques. Ce travail est souvent vécu comme empêché, au sens où Clos et Werth le définissent. Il est vécu comme impossible à réaliser, impossible à bien faire, impossible à finir, impossible à prévoir, à évaluer. Le sentiment également d'un mésusage des qualifications, des expériences et des qualités personnelles l'accompagne, ainsi qu'une porosité vécue de façon pénible entre sphère privée et sphère publique, produisant l'impression que décidément on n'en sort pas du travail, avec l'usure qui accompagne ce sentiment. De plus, comme le disent souvent les enseignants, il faut désormais travailler avec ses tripes. Et travailler avec ses tripes, il faut y mettre ses tripes. Cela veut dire qu'il faut mettre beaucoup de soi pour que les situations tiennent, pour intéresser les élèves. Les normes définies à distance ne suffisent pas à faire tenir les situations. Il y a donc un travail à faire pour reconstruire des normes qui permettent localement de gérer l'équation équité-efficacité qui a été mise en place dans le contexte de la décentralisation et qui est contrebalancée paradoxalement par la montée des déterminants exogènes, c'est-à-dire d'un côté la nécessité de définir des normes locales pour gérer cette équation, mais en même temps l'imposition par l'extérieur, et parfois même de très loin, depuis l'Europe, ou même voire plus loin, d'un certain nombre de critères qui doivent être respectés. Et en tous les cas, l'objectif d'efficacité. Donc, il faut y mettre du sien. Et il faut d'autant plus y mettre du sien qu'il y a également une injonction à l'individualisation qui oblige à la proximité avec les élèves, au traitement particulier et de fait à l'inégalité de traitement des élèves. Ce qui va à l'encontre d'une logique civique héritée, dont la valeur principale est l'égalité, valeur sur laquelle s'est construit le métier. Ainsi, l'évolution du métier des professeurs de collège et de lycée converge nettement, on peut l'observer, avec celle des métiers de service, dans lesquels les salariés ont à gérer dans leur activité même des objectifs parfois contradictoires. Des objectifs à la fois d'efficacité, de résultats en masse, et en même temps de résolution au plus proche des individus de leurs difficultés. Il faut mettre beaucoup de soi, alors que cet engagement dans le travail est à la fois convoqué et révoqué. L'engagement dans le travail, la mobilisation de la subjectivité des enseignants dans leur travail est convoqué lorsque, par exemple, il y a une injonction au projet. Lorsque, par exemple, il y a l'injonction également d'individualisation, d'aide auprès des élèves. Mais il est dans le même temps souvent révoqué par des organisations du travail qui ne produisent pas les ressources nécessaires à l'exercice de l'autonomie et de la créativité pourtant réclamées. De plus, par rapport à ces ressources, l'accès à ces ressources n'est pas égal. Et selon le lieu d'exercice, selon la situation statutaire et le moment dans la carrière des enseignants, l'accès à ces ressources est différent. Mais dans le même temps où il faut s'engager personnellement dans ces tâches, il faut aussi faire du chiffre. Il faut faire du chiffre pour gagner l'opinion. Il faut gérer des flux. Il faut se montrer efficace. Il faut avoir à la fois le souci du faible, le souci de l'unique, de la particularité de chaque élève, et celui de la masse, du flux, de dégager une élite. Dans ce cas, la question de la justice n'est pas du tout une question théorique, c'est une question très pratique. Les choix et arbitrages, y compris dans des situations les plus minuscules, ont comme point de repère des normes référées à des valeurs. Et c'est le troisième point que je voudrais aborder sur le phénomène de construction d'une normativité intermédiaire dans et par le travail, en posant la question, est-ce qu'il s'agit d'une autre façon de résister avec un sens un petit peu différent, celui qui est entendu peut-être d'habitude. Donc, la situation actuelle montre que la définition du cadre de l'action des enseignants et par les enseignants, avec les débats de normes auxquels elles donnent lieu, est une question clé. Comment les enseignants conduisent-ils individuellement et collectivement leur action dans un contexte qui leur impose de définir et de redéfinir individuellement et collectivement le cadre de leur activité, et ceci en interaction avec des partenaires de plus en plus divers et à des échelles différentes, avec les élèves, avec l'élève, avec les élèves, avec les parents, la hiérarchie locale ou territoriale, avec les élus. Désormais, la faible prédéfinition du cadre de leur action, ou ces prédéfinitions contradictoires, et les tensions qu'elles engendrent, entre local et national, par exemple, entre logique de mission, logique de service, entre l'universalisme des savoirs d'un côté, les savoirs sociaux et la pluralité des cultures de l'autre, toutes ces tensions contraignent les enseignants à construire et reconstruire ce cadre en arbitrant entre divers possibles et à en stabiliser autant que faire se peut les contours pour pouvoir travailler. C'est-à-dire notamment pour mener à bien le travail d'intéressement des élèves à la cause des savoirs, à la cause de l'école qui ne va plus de soi, et au partage de valeurs communes les rendant membres de la société. La modification des politiques d'éducation et celle de l'organisation du travail imposent de fait un nouvel usage de soi. Si on reprend la formule de Yves Schwartz, et l'usage de soi qui a deux facettes, un usage de soi par autrui et un usage de soi par soi. Ce nouvel usage de soi modifie l'activité. Les nouveaux dispositifs prescrits modifient les normes et cadres construits au fil du temps. Ils génèrent un travail de traduction et d'ajustement qui est à la fois une charge de travail très lourde et en même temps une occasion pour les enseignants d'exercer leur liberté, de conquérir des marges de manœuvre, d'avoir du plaisir à travailler. les nouvelles prescriptions introduisent de nouvelles logiques, de nouveaux objets. Elles suscitent des épreuves inédites. Les enseignants doivent mobiliser des ressources, ajuster la prescription à leur contexte de travail, arbitrer entre des normes et des logiques différentes, négocier, bref, définir collectivement ce que j'ai appelé une nouvelle normativité, imprégnée de l'ancienne et en partie distincte, constituant un cadre pour le travail. Les travaux d'ergonomie de langue française ont permis de comprendre que le travail réel n'est jamais l'application de la prescription. Et l'acteur est aussi un sujet. Face à toute limitation de son autonomie, introduite par de nouvelles prescriptions, il exerce sa capacité de résistance, avec ce que cela contient de positivité. Et pour aller à l'encontre de la rhétorique habituelle sur la question, j'insisterai sur ce que cela peut contenir de positivité que cette résistance. Par un travail de renormalisation, soutenant la faculté de chacun à, selon la formule de Schwartz, recomposer un monde à sa façon. Donc traduction et ajustement, coopération et collégialité, construction de cycles d'emprise et de déprise, et ou de grandeurs différentes permettant la déprise du travail, voilà autant de voies empruntées par les enseignants et que nous pouvons interpréter comme de nouvelles formes de résistance pour, en fait, bien travailler. Construire de nouveaux repères normatifs, référer à des principes généraux, préserver ce qui leur est à la fois demandé et refusé, à savoir l'autonomie dans leur travail et la nécessaire maîtrise des ressources. Plus la mobilisation de la subjectivité est exigée pour réussir l'activité, plus les formes de résistance concernent cette dimension également. On observe par exemple le développement par les enseignants de pratiques sociales en dehors de l'école, permettant de préserver et d'organiser une séparation des mondes, rendant plus vivable la tension au travail et évitant une trop grande porosité, celle qui est une des principales sources d'usure. Ainsi, l'attitude de retrait, dont parle Albert Hirschman, est moins observée dans l'activité même, ce qui serait trop risqué, impossible à tenir, que dans l'appartenance à plusieurs mondes, se contrebalançant en quelque sorte, et il faut, pourrait-on dire, que la vie soit ailleurs pour qu'elle soit aussi dans le travail. Donc en conclusion, je me poserai la question de savoir comment on peut articuler singularité de l'activité et universalité des principes et quelle peut être l'approche sociologique. La prise en compte de la singularité de l'activité et de la mobilisation accrue de la subjectivité requise dans le travail enseignant par l'approche sociologique conduit-elle pour autant à psychologiser le social ? C'est toujours la grande crainte qu'il y a. Conduit-elle également à un enfermement dans le particulier de l'individu ? Alors, mon point de vue sera le suivant, c'est que s'il convient de garder un point de vue socio-historique et sociologique sur le mouvement objectif d'individualisation et de psychologisation comme intériorisation de ce que Martuccelli appelle les figures de la domination, il faut aussi prendre la mesure de son effet boomerang quand il devient le moyen de nouvelles résistances. Ainsi, les contradictions sociales passant par les individus dans la dualité des usages de soi, l'usage de soi par autrui et l'usage de soi par soi, contribue en retour au développement d'un conflit éthique conduisant à une repolitisation des débats de normes. Lise de Mailly donne un exemple très frappant de cela. Elle souligne par exemple qu'un effet paradoxal de la psychologisation est la forte demande de reconnaissance et de respect due à la personne en tant que telle. En une espèce de retournement du rapport de domination, si j'ai une intériorité, une psychologie, vous devez en tenir compte et me respecter. L'activité génère en permanence un retravail des principes généraux et d'universels débats de normes. Ainsi, l'engagement de soi le plus singulier se situe au cœur de débats universels, ce qui permet un retour aux politiques à partir d'une approche du travail depuis le détail, du geste ou du discours en situation. La mutation du contenu du travail provoque chez les enseignants un sentiment d'incohérence qui se traduit dans la façon de percevoir le métier et de se percevoir par rapport au métier. Or, il y a actuellement un problème quant à la définition du métier. Le sentiment qu'il échappe domine, et un défaut de la capacité à le garder vivant par une évolution collectivement débattue apparaît comme source de difficultés individuelles et collectives. Des travaux précédents incitent à penser que les enseignants sont confrontés à une sorte de ce qu'on pourrait qualifier de panne du genre, au sens où Chloé Fayetta emploie ce terme. Mais si avec Canguilhem on estime que la normativité ne peut être un privilège, se préoccuper de la définition d'une normativité dans l'activité, au moment où la pluralité des normes accroît la nécessité d'un débat à leur propos, c'est aussi se poser la question de la commensurabilité des êtres dans la définition de normes et pas seulement dans le champ de l'activité enseignante ou plus généralement salariée.